Elisabeth Badinter, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Classique. On pensait que vous aviez tout dit sur l'égalité homme-femme et les inégalités de genre. Mais non, il y a ce livre qui vient de sortir. Quel en a été le déclencheur ?
Le déclencheur a été une sorte d'inquiétude profonde de ma part, peut-être exagérée, mais en tous les cas très forte chez moi, sur le fait que si on considère une chute qui continue de la natalité au rythme où nous l'avons vu diminuer depuis 2010 dans les pays occidentaux, dans les pays industrialisés, il me semble que ça peut devenir un sujet d'inquiétude. Je pense que nous ne devons pas, si vous voulez, faire en sorte d'essayer de retrouver les chiffres de l'après-guerre, où on faisait beaucoup d'enfants. Je ne suis pas une nataliste à tout prix. Simplement, je m'inquiète de cette chute et j'espère qu'elle va se freiner. Je ne suis pas du tout, comment dirais-je, pour qu'on revienne comme ça à une natalité florissante, parce que la planète ne le supporterait pas. Mais je ne suis pas non plus sourde aux problèmes que ça pose à l'État. Et par conséquent, c'est cette espèce d'équilibre que pour ma part j'essaye de trouver ou de proposer, et me suis demandé, la grande question pour moi, c'est pourquoi les femmes ont moins envie de faire des enfants qu'il y a 40 ans ou 50 ans.
Alors on va y venir, mais effectivement votre livre s'inquiète à la fois de la baisse de la natalité pour tout un tas de raisons qui concernent le vivre ensemble, le financement des retraites, la prospérité, tout ce qu'on veut. Et puis, en même temps, vous vous inquiétez du sacrifice que représente aujourd'hui pour les femmes le fait de faire des enfants.
Je m'inquiète beaucoup de la menace possible dans nos pays occidentaux que la chute de la natalité suscite, comment dirais-je, une pression que je jugerais, moi, insupportable, sur les femmes pour qu'elles fassent des enfants, pour que d'une façon ou d'une autre, on les y oblige. Et quand je dis ça, je pense par exemple à ce qui se passe dans deux démocraties occidentales. Je pense à l'Amérique, où depuis deux ans, à peine deux ans, les femmes américaines n'ont plus toutes, je dis bien toutes, le droit de maîtriser leur reproduction, ce qui a été un choc qu'on ne peut pas imaginer pour toutes les femmes ici. Et je pense aussi à l'Italie, qui n'a pas eu la même politique que les Américains. Autrement dit, sans jamais en parler, on a fait en sorte, et ce n'est pas seulement depuis Madame Meloni, c'est avant, on a fait en sorte que ça devienne de plus en plus difficile d'avorter si on en ressent la nécessité. Et donc, comme il ne faut pas se leurrer, aujourd'hui, en Occident, il y a quand même de forts mouvements de droite, peut-être même d'ultra-droite. Je me suis dit, pourvu que ce ne soient pas les femmes qui payent la note.
Il y a aussi des mouvements religieux, Elisabeth Badinter. C'est-à-dire que la conjonction de tendances très conservatrices associées à la réaction religieuse, disons les choses comme ça, qu'elle soit d'ailleurs ultra-catholique comme aux États-Unis ou éventuellement ultra-fondamentaliste comme c'est le cas parfois dans nos contrées, cela, ça vous inquiète?
Oui, ça m'inquiète. Ça serait une régression insupportable à mes yeux de la condition féminine et un manque de respect. J'ajoute que, de surcroît, les femmes ont un droit pour moi total, complet, de choisir le nombre d'enfants qu'elles veulent, ou pas d'enfants du tout. Et que, personnellement, je pense qu'il ne s'agit pas tant, je dirais, d'augmenter massivement notre natalité que de peut-être de garder un certain équilibre. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que par rapport à il y a 20 ou 30 ans, nous vivons plus tard, nous vivons plus vieux. Et par conséquent, l'équilibre s'ajuste un petit peu. Je ne demande pas que les femmes refassent 2,1 enfants par femme, mais au moins qu'on arrête la baisse. Et pour arrêter la baisse, et c'est là la grande question, que faire ? Il me semble que pour arrêter la baisse, il faut que les hommes...
Vous alliez dire les mecs.
Ah non, j'allais pas dire les mecs. Non.
Les messieurs, alors.
Alors, les hommes, les messieurs, oui. Il faut qu'ils fassent un effort. Et je dirais que cette évolution vers l'égalité des sexes qui a commencé, en gros, dans les années 70, a été très efficace. Il y a eu beaucoup d'efforts de fait jusque dans les années 2000. Depuis lors, ça traîne, ça va beaucoup trop lentement, tout simplement parce que pour remédier à cette inégalité, il faut, si vous voulez, que les hommes fassent un effort qu'on ne peut pas les forcer à faire par des lois prohibitives. On ne va pas les punir parce qu'ils ne partagent pas tous les efforts des femmes. On ne peut pas les y forcer. On ne peut pas contraindre par des lois les hommes à partager parce que c'est la vie privée. Et il ne faut pas que l'État non plus intervienne tant que ça dans la vie privée personnelle.
Elisabeth Badinter, vous êtes sur une ligne de crête en fait. Vous vous inquiétez de la dénatalité, vous vous inquiétez de la liberté des femmes d'avoir ou pas des enfants, vous appelez de vos voeux une reproduction des humains qui soit peut-être pas formidable mais qui maintienne l'équilibre. Et on vous reconnaît là. On vous reconnaît là dans votre pensée qui est une pensée de la raison. J'aimerais qu'on revienne à ce que vous diagnostiquez dans votre livre, c'est-à-dire la fatigue des femmes qui font un arbitrage aujourd'hui, un calcul, vous dites, et ce calcul est un peu triste, un calcul coût-avantage de faire des enfants, ce qui n'était peut-être pas le cas avant, parce qu'elles n'avaient peut-être pas le choix, ou peut-être qu'aujourd'hui elles sont plus rationnelles comme des acteurs économiques.
Je ne sais pas si c'est être plus rationnel, peut-être, avez-vous raison, mais... cette nouveauté dans notre vie maternelle ou dans ce qui concerne notre maternité, il y a une révolution. Nul doute, si vous voulez, qu'il y a encore 30 ou 40 ans, on ne se posait pas la question. Est-ce qu'avoir des enfants est finalement une source de plaisir, de bonheur, ou est-ce aussi une source de travail, de fatigue, de répéter tous les jours les mêmes gestes, penser à tout, tout le temps. C'est-à-dire qu'une mère, surtout quand elle a des enfants petits, mais pas seulement, elle doit penser quotidiennement à des petites choses importantes pour les enfants, pour la famille. Et d'une certaine façon, on a fini par croire qu'une femme, c'est d'abord quelqu'un qui prend soin des siens. Comme si c'était sa fonction principale et unique.
Elles ont fini par le faire.
Elles ont fini par le faire plus ou moins bien, parce que quand on a une double journée de travail, c'est pas si simple de faire tout très bien tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours.
J'en reviens au titre du livre. Messieurs, encore un effort. Si c'est pas l'État, si c'est pas la loi, même s'il y a quelques lois qui encouragent le congé de parentalité, si les mœurs, les magazines, les enquêtes de société, à leur façon, encouragent les hommes à faire leur part, vous dites dans le livre, quand un homme fait sa part, et même quand il la fait bien, il est quand même le supplétif de la femme. Il est à 49% et le 1% de différence, c'est la charge mentale qui bouffe la joie de vivre d'une femme avec ses enfants, avec son travail et de s'épanouir. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut déconstruire les hommes comme le dit Sandrine Rousseau?
Personnellement, je trouve ça ridicule. L'idée de déconstruire les hommes me semble, pardonnez-moi l'expression, imbécile. Je veux dire, on ne déconstruit pas, on essaye de convaincre des arrangements. C'est des arrangements au mieux. Ça ne peut pas être, vous allez changer carrément de nature, etc. Je pense que la seule recette pour, effectivement, améliorer la natalité, c'est essayer de les convaincre. Et je pense que, pour beaucoup d'hommes, ils sont prêts à ça, à écouter un peu plus et à se dire, effectivement... si je ne fais pas ce que je dois faire, c'est-à-dire la moitié du chemin avec elle, ça crée des troubles. Ça crée aussi, je dirais, des problèmes entre elle et lui. Et on se dit, non, c'est trop de travail, c'est trop d'efforts. Ce que je voudrais souligner, c'est que la question qui est rendue plus difficile encore aujourd'hui, c'est le fait que nous avons aussi changé de valeur de vie. Et c'est un peu contradictoire avec la question de comment faire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la première valeur des nouvelles générations, c'est d'avoir une vie, comment dirais-je, plus facile, moins stressée, c'est avoir une vie avec un peu plus de repos, c'est-à-dire vivre un petit peu pour soi en tant que femme et pas seulement comme mère. Et c'est devenu très fort dans la nouvelle génération. On peut trouver ça bien ou mal, c'est un fait. Et donc, ça se heurte, si j'ose dire, à l'intérêt du couple. Parce que d'un côté, nous sommes, comment dirais-je, conduits à essayer d'avoir une vie un peu plus douce. Pour résumer, c'est vivons pour notre bonheur, pour notre plaisir, moi d'abord. Et de l'autre côté, nous avons l'obligation aussi, en fonction des impératifs pour élever des enfants, ce qu'on appelle l'éducation bienveillante, tout pour l'enfant. Alors, entre ces deux objectifs opposés, voilà, il faut négocier.
On retrouve le juste milieu, cher à Elisabeth Badinter. Quand j'ai lu ce que je trouve être peut-être une lettre aux hommes, quand vous leur dites « messieurs, encore un effort, il y a beaucoup de bienveillance ».
Je souhaite, en écrivant ce livre, c'est au fond qu'on arrive, si vous voulez, à une sorte de négociation entre les deux sexes et, voilà, et éviter que la chute se perpétue. Je pense que si, dans 10 ou 15 ans, la chute de la natalité en Occident continue de baisser à ce rythme-là, à ce moment-là, on sera en danger.
Si certains disent, eh ben, utilisons la GPA, utilisons des femmes comme ventre et légalisons la GPA, qu'est-ce que vous répondez ?
Alors, je réponds que je ne suis pas dans cette optique-là. Depuis toujours, ou depuis qu'on parle de la GPA, je suis partisane de l'autoriser, mais dans des conditions éthiques. Si vous voulez, sans mettre des sommes d'argent pour obtenir ce qu'on veut de par les femmes qui n'ont pas d'argent et qui vivent peut-être de ça dans certains pays du monde, je suis archi contre. Il y a aux États-Unis ou en Angleterre des règles très strictes pour que des femmes souhaitent porter un enfant pour autrui. C'est une chose. Je suis pour que on rembourse cette femme, je veux dire, de tout ce que ça coûte d'être enceinte et de porter un enfant, mais pas plus d'argent. Voilà, ça me semble la moindre des choses de les remplacer de tout ce que ça leur coûte, mais ça s'arrête là. Alors évidemment, il n'y a pas tellement de femmes qui sont prêtes à ça, dans nos contrées en tous les cas. Mais ce n'est pas une raison pour moi qu'on interdise ça.
Elisabeth Badinter, vous avez consacré une grande partie de votre vie aux idées, à la philosophie, au débat public et intellectuel. Quel regard portez-vous sur le débat politique aujourd'hui et intellectuel, sur le débat d'idées ?
Je vais être un peu excessive. Je dirais qu'il n'y a plus vraiment de débat. Je dirais que échanger des idées qui sont opposées les unes aux autres est tout à fait, comment dirais-je, respectable, c'est justement le fait même du débat, mais ça n'est plus ça aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plutôt une sorte de guerre intellectuelle. C'est comment vous faire taire. Et je suis très impressionnée par le fait que la liberté d'expression convenable existe de moins en moins.
Elisabeth Badinter, j'ai une question un peu déplacée à vous poser, puisque vous avez toujours protégé votre vie privée, séparé la femme de l'œuvre, comme on dit aujourd'hui. Mais quand même, vous écrivez sur la façon dont les femmes sont fatiguées d'élever des enfants, sur la peur d'avoir des enfants. Alors je vous la pose la question, quel genre de mère avez-vous été ?
Je répondrai d'une façon générale que nous sommes toutes des mères médiocres.
Même vous ?
Mais comme tout le monde.
Elisabeth Badinter, merci. Messieurs, encore un effort. Est-ce que vous écrirez encore aux hommes ou cette fois-là, ça y est, c'est fait ?
Je crois que c'est fait.
C'est paru chez Flammarion Plomb. Puis j'ajoute un livre qui vient de sortir de Sophie Sacnin. Merci Elisabeth Badinter, Universalisme, laïcité, féminisme, tout ce que nous lui devons. Sophie Sacnin a fait un livre sur tout ce que les femmes et les hommes vous doivent dans ce fameux débat d'idées que vous avez toujours alimenté avec équilibre et respect. Merci madame.
Merci à vous.
Et on peut retrouver l'entretien que nous venons d'avoir en podcast dans quelques minutes sur radioclassique.fr. À suivre le rappel des titres avec Charles Bonner, la revue de presse de Marc Bourreau et l'esprit libre du lundi, j'ai nommé...